C'est donc en jouant avec Ginette que je me suis aperçu que la compagnie des femmes m'était indispensable. Sinon, leur compagnie, en tout cas, leur vision. Pour moi, rien n'est plus beau à regarder qu'une femme en train de marcher pourvu qu'elle soit habillée d'une robe ou d'une jupe qui bouge au rythme de sa marche. Il y a celle qui file rapidement vers un but, peut-être vers un rendez-vous. Il y a celle qui se promène avec sur le visage un air de loisir.
Une demi-heure dans la vie des idées. Aujourd'hui, rencontre avec Charles Dantzig. Vous le connaissez peut-être, il produit depuis la rentrée Personnages en personne sur France Culture les dimanches à 15h qui succèdent à Secret Professionnel. Dimanche dernier, il s'intéressait à Ziggy Stardust. Dimanche prochain, il se penchera sur
Clarissa Dalloway, le personnage de Virginia Woolf.
Écrivain et éditeur chez Grasset, où il dirige deux collections et la revue Le Courage. Il publie aujourd'hui dans sa maison un traité des gestes après un dictionnaire égoïste de la littérature française, après une encyclopédie capricieuse du tout et du rien, et après Histoire de l'amour et de la haine. Qu'est-ce qu'un geste? De quoi est-il le prolongement? Que disent ces gestes que tout le monde fait et que personne ne semble vraiment remarquer? Comme Un beau soleil intérieur, le film de Claire Denis, notre première invitée dont on vous parlait jusqu'à midi et demi. Ce livre est un recueil de fragments, gestes avec la langue, gestes avec les mains, gestes d'adieu, s'asseoir, sourire, fausseté du geste, gestes nationaux, gestes oubliés, un ensemble de digressions pour penser le rôle de la littérature, le sens de l'amour, la morale ou encore les conventions. Charles Dantzig, bonjour.
Bonjour Olivier.
Mais alors ce traité, c'est un geste d'écrivain ou un geste de collectionneur ?
C'est un geste des deux. Il me semble que j'aime bien m'intéresser à des choses, comme vous l'évoquiez, que tout le monde fait, auxquelles on ne réfléchit pas beaucoup. Car en réalité, il n'y avait pas de livre à proprement parler sur les gestes. Et pourtant, c'est une chose que nous faisons tellement souvent et en permanence. Et c'est très mystérieux, les gestes. C'est-à-dire qu'il y a... Je vous observais tous les deux tout à l'heure et vous faisiez...
Vous venez de remarquer d'ailleurs qu'Antoine Mercier vient d'adopter, lui, la posture du penseur.
Voilà, c'est ouais. Ça. Mais...
Du regardeur, déjà.
Et Antoine Mercier, et vous, Olivier, tout à l'heure, vous avez fait deux types de gestes. C'est-à-dire qu'Antoine, à un moment, quand il a posé une question à quelqu'un qui devait lui répondre, il a ouvert les mains en calice, comme ça. Ça veut dire qu'il s'apprêtait à recevoir quelque chose. Et tandis que vous, Olivia, quand vous faisiez votre lancement, donc ce que faisait Antoine, c'était un geste démonstratif en quelque sorte, et vous, pendant votre lancement, vous frottiez les mains l'une contre l'autre, qui ne correspondait pas à ce que vous disiez. Donc ça veut dire que votre geste est un supplément. Tous les gestes
et
ne
alors,
sont pas...
Et alors, qu'est-ce que vous en concluez ?
Eh bien, c'est que tous les gestes ne sont pas les mêmes. C'est qu'il y a des gestes qui sont démonstratifs, des gestes d'appui de la conversation, d'appui de la parole. Il y a des gestes qui sont des compléments, et je crois qu'on a parfois un peu le tort de penser que tous les gestes veulent dire quelque chose. C'est-à-dire qu'on vit en France, on vit dans un pays de raisonnement, de raisonneurs, dont je suis d'ailleurs, moi je n'ai rien contre le raisonnement, mais on est parfois un peu enfermé dans des jardins à la française de pensée. On veut que tout signifie quelque chose en France et signifie raisonnablement. Et il me semble que si les gestes sont un langage, ce qu'ils sont, si les gestes sont parfois même une langue, puisque le langage des sourds est même une langue des sourds, et une langue séparée. Il y a aussi des gestes qui sont des formes de création.
Et là, vous avez vos deux mains, l'une sur l'autre, comme ça. Et comme ben, ça le faisait parfois Mitterrand.
Ça veut dire... ça dénote mon ambition féroce. Mais ça veut dire que... vous savez, ça veut dire que c'est un rapport au temps différent. En fait, je crois que c'est les gestes, c'est tout ce que je vous dis, et ça signifie un rapport au temps différent. Je vous parle, là, je suis en train de faire, les gens ne le voient pas, mais un geste précisément démonstratif. J'appuie avec ma main ce que je suis en train de dire, mais en même temps, ce que vous ne voyez pas, c'est que j'ai mon pied qui fait des petits gestes sous la table, et ce pied est dans un autre moment que le moment où je parle. Les gestes, c'est quelque chose de très... C'est un rapport à la mémoire, au fond.
Collectionneur, parce que dans ce traité des gestes que vous signez, Charles Dantzig, il y a aussi toute une typologie de gestes. Le geste avec le téléphone, dans le bus, un mastard, seule chose délicate en lui, les gestes du bout des pouces et des index sur son téléphone portable. Geste aussi avec la cigarette, mais là la loi Evin m'interdit d'en parler, donc je passerai au prochain. Geste avec la bouche, ils passent leur vie à déchiqueter autrui et poussent des cris d'indignation dès qu'on les effleure. Ça c'est la bouche de Donald Trump que vous évoquez, sa moue d'enfant malveillant qui concentre à vos yeux la cruauté de cet être qui fait partie de l'espèce des requins à peau fine. Des gestes intimes aussi et le sourire. Un sourire et l'étirement extérieur et mystérieux d'une sensation intérieure et nette. Un sourire est une onde.
Bien, vous avez cité deux personnes très frappantes. Vous avez cité Trump, qui a révélé par un geste ce qu'il était avant même d'être élu. Il n'a pas eu besoin de sa politique pour comprendre ce qu'il était. Je le raconte dans mon livre. C'était pendant sa campagne électorale. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il a été interrogé par un journaliste en public, par un journaliste du Times qui lui a posé une question. Ce journaliste est handicapé. Et Trump lui a répondu devant des centaines de personnes en contrefaisant son geste et en faisant un geste d'handicapé avec les bras qui se balancent, c'est-à-dire qu'il se moquait d'un handicapé physique, ce qui pour moi est un geste qui suffit à vous disqualifier de l'humanité. Il n'y a pas besoin d'un gouvernement Trump pour comprendre que cet homme est inhumain. De la même façon, le sourire que vous citiez, Olivia, il est à peu près convenu que le sourire est une chose bénéfique entre les êtres. Quand on sourit, ça signifie à peu près universellement, et c'est peut-être un des seuls universels, qu'on s'entend et qu'on a décidé d'être au moins bienveillant avec les autres. Eh bien, pendant la dernière campagne présidentielle, on a assisté à une chose très frappante pendant le débat entre Macron et son adversaire, dont je ne veux même pas citer le nom, c'est que cette personne, pendant une heure et demie, a dévoyé le sourire. C'est-à-dire qu'elle a passé deux heures à sourire et son sourire était le contraire de la bienveillance. Ça devenait un sourire de férocité, de méchanceté. Et elle a réussi pendant une heure et demie à dévoyer une chose bonne. Ça suffit à comprendre quelqu'un, non ?
Le choix de la forme ou le choix de la méthode, Charles Danzig, à propos de Balzac, dans un chapitre qui lui est en partie consacré, Marche et démarche, vous écrivez, il est curieux qu'un romancier cherche une méthode. Un grand romancier ne cherche pas, il trouve, il sifflote dans la rue, distrait ou feignant de l'être, et prêt à tout accueillir, attrape le geste, la scène, la vie qui passe avec sa sensibilité et non au moyen de je ne sais quel mode d'emploi. On entendait dans la première partie de l'émission Roland Barthes s'exprimer sur son choix du fragment, pour les fragments d'un discours amoureux. Il disait que pour lui, c'était une forme tactique, qu'il était assez intolérant face à la dissertation, que le discours suivi l'ennuyait, qu'il avait donc choisi une forme d'écriture qui soit dans la discontinuité fragmentée, et il se référait en cela aux pensées de Pascal qu'il appréciait particulièrement. Pour vous, cette forme du fragment, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle permet ?
D'une part, c'est un fragment organisé, puisque comme vous l'avez cité, c'est chapitré et mes chapitres sont raisonnables. J'ai un peu le sentiment que mon livre, ce livre-ci, est comme un cheval de cirque. C'est-à-dire, il entre, il fait son salut par une introduction, alors que je n'en fais jamais, je suis plutôt contre les introductions. Il fait ses démonstrations par son tour de piste et il finit par une conclusion. Et à l'intérieur de ça, il y a des fragments et la forme est fragmentaire parce que je pense qu'il faut prendre les choses par surprise. Je suis d'accord avec Barthes. Quand on raisonne très méthodiquement comme Balzac que vous citiez, on finit toujours par dire des bêtises parce qu'on est entraîné par l'ivresse du raisonnement. On pense que le raisonnement est comme une mécanique qui s'entraîne elle-même et se suffit à elle-même à la fin et on ne voit pas les choses de côté. Tandis que quand on marche comme une araignée, comme ça, avec des longues pattes et qu'on essaie de prendre un peu partout, il y a des choses qui arrivent à nous et qu'on voit et qu'on ne verrait pas autrement.
Donc le fragment, c'est un peu plus aussi qu'une suite d'instantanés. Le fragment, c'est aussi une forme qui vous permet de déployer une pensée à la manière peut-être de Montaigne dans ses essais ou de La Bruyère avec ses caractères. Est-ce qu'on peut vous appliquer le mot de Barthes sur La Bruyère, que le fragment est un récit manqué, une métaphore masquée ?
Je comprends pourquoi Barthes disait manquer, parce que lui, il avait une chose qui a été le drame de sa vie, c'est qu'il a manqué le roman. Comme on sait, il voulait écrire un roman, il ne l'a jamais écrit son roman. Donc il aimait bien théoriser le manquement de manière universelle. Non, je pense qu'il ne s'agit pas seulement de manquer quelque chose, il s'agit de faire des ellipses. Et je pense que les ellipses, d'abord c'est penser que les gens qui nous lisent sont intelligents, on n'a pas besoin d'un raisonnement développé et complet. Moi, je n'ai jamais pensé que les lecteurs étaient des élèves dans une classe à qui il fallait expliquer très méthodiquement comment les choses se déroulaient. Et puis d'abord, il n'y a pas de déroulement des choses. Les livres, c'est comme la vie, c'est des instants.
Alors, vous avez déjà écrit un dictionnaire, une encyclopédie, une histoire d'eux. Aujourd'hui, un traité. Quelle sera la prochaine forme retenue ?
La prochaine forme retenue, ça sera un livre de poèmes.
Un recueil.
Voilà. Non, pas un recueil, un livre. Car je ne recueille pas mes poèmes. Je suis un peu pédant avec ça. C'est-à-dire que les recueils sont en général des gens qui rassemblent des choses qui sont publiées dans des revues. Et comme j'ai une espèce de maniaquerie d'organisation, j'essaie d'écrire des vrais livres de poésie avec une intention de livre. Comme celui-ci est une intention de livre. Je ne dis pas que c'est réussi, mais les fragments cachent une intention de livre. D'ailleurs, l'appellation bien sérieuse de traité doit le dire.
Charles Tantzi-Gavulia, les gestes sont un point de départ au texte et le texte à la pensée dans une sorte de métaphore continue. Vous dites aimer la dimension dynamique du fragment, le mouvement qu'il implique, hein, tout ce qui casse la mécanisation de la pensée, écrivez-vous, comme le caractère imparfait d'ailleurs du geste qui le rend vivant et donc humain. Ce traité des gestes, c'est aussi une forme de manifeste anti-immobilité, anti-cliché.
Oui, je crois que c'est une manière de capter des instants qu'on ne regarde pas. C'est aussi une manière, comme je vous le disais tout à l'heure, je crois au fond que le temps n'existe pas. C'est une manière de dire ça. Je crois que le temps n'existe pas. Il existe le vieillissement, il existe la mort, il existe la corruption des corps, mais ce qu'on appelle le temps est une idée très raisonnable et très occidentale de penser qu'il y a un début, un commencement, une fin et un destin. Et je ne crois pas à ça. Et les gestes le montrent.
C'est plutôt la flèche du temps qui n'existe pas.
Oui,
ou
c'est ça.
Du temps,
c'est
le fait
ça. Je pense qu'il n'y a pas un
processus.
Destin et qui est une forme, au fond, qui est quelque chose qui a été inventé par nous-mêmes pour nous rassurer. Si on se dit il y a un destin, enfin je
donc
ne
suis.
Donc
on est donc dans l'instant, dans l'éternité. On est dans quoi?
On est dans l'instant perpétuel. On est dans l'instant perpétuel. Regardez comme c'est frappant, précisément avec les gestes et comme les gestes sont les mémoires de choses que nous avons oubliées. Quand vous regardez un nourrisson, mais vraiment un enfant qui vient de naître, qui a 3 semaines ou 15 jours, qu'il est dans son berceau, sur le dos, et que tout d'un coup, il ouvre très lentement la main en la tournant un peu. C'est toujours le même geste. C'est le geste exact d'une étoile de mer. Qu'est-ce qui me dit que ce geste n'est pas le souvenir inconscient de l'époque où nous étions des algues et des poissons au fond de l'eau? Et je pense profondément ça, nous avons aussi des gestes animaux, et ce livre sert aussi à dire que les hommes sont parfois un peu trop orgueilleux de penser qu'étant les hommes, ils sont les rois de la création.
Mais les animaux ont des gestes aussi?
Les animaux ont des gestes dans la mesure où un mouvement conscient est un geste. Donc certains animaux ont évidemment des gestes dans la mesure où ils font des choses consciemment. C'est une chose que les religions leur nient, évidemment. La plupart des religions disent que les animaux n'ont pas de conscience, parce qu'il s'agit là aussi de prouver que les hommes sont supérieurs à tout et que, encore supérieurs aux hommes, sont les églises qui les dirigent.
Vous êtes au chapitre gestes aquatiques. Antoine, vous voulez nous en lire un extrait?
Je ne sais pas, je suis au chapitre gestes aquatiques, voilà, allez, rien. Et étant des mammifères, nous ne pensons pas de poissons. Nous l'avons été il y a des milliards d'années, donc c'est la référence au bébé, effectivement. Et puis alors, il y a aussi les hanches, on les esquive de truites.
Mais oui.
Ah, ça c'est magnifique.
Mais oui.
C'est déjà la poésie.
Et puis, vous savez.
Nos cuisses sont les saumons qui bondissent.
Je pense aussi que les gestes sont, si on peut être sentimental ou disons même exact pendant 2 secondes, les gestes peuvent être aussi des souvenirs d'amour. Moi, en écrivant ce livre, je me suis rendu compte que de l'âge de 10 ans à 25 ans, j'ai fait le geste, en arrivant dans les salles de cinéma, de m'asseoir en me tenant les deux hanches en m'asseyant. Et c'est seulement des années après, en écrivant ce livre, que je me suis rappelé que faisant ce geste enfant, j'imitais un geste de mon père qui était mort quand j'avais 10 ans, et mon père faisait ça, ce geste-là, mais il le faisait lui de manière tout à fait raisonnable parce qu'il avait une sciatique. Et donc moi, enfant, je me suis approprié ce geste, mais qui était donc très exactement un souvenir d'amour, de la même façon qu'on peut s'approprier la parole de quelqu'un qu'on aime, un mot de quelqu'un qu'on aime.
Mais une fois que vous en avez pris conscience, vous avez arrêté de le faire, ce geste?
Je ne sais pas. Je ne sais pas, non, parce qu'on peut avoir un cabotinage du geste aussi. On peut dire on continue un geste qu'on croit être tellement nous.
Ou un attachement au geste.
Ou un attachement
justement
au geste.
Parce qu'il rappelle. Du coup, c'est vrai que vous avez l'honnêteté de commencer assez vite dans ce traité des gestes par vos propres gestes, Charles Dantzig, par vous observer, gesticulant. C'est une sorte d'autoportrait de l'auteur en gesticulateur. Vous y évoquez ce geste de votre père que vous avez reproduit. Vous y évoquez d'autres gestes. Le geste est parfois l'expression de ce que nous venons d'éprouver et qui surgit hors de nous. Moi qui dis si peu de moi en parole, que révèle cette maladresse qui me fait renverser des verres dans les restaurants? Autre geste de vous, je me fais des modes, les habitudes m'angoissent, j'espère changer de geste comme de façon de m'habiller, de lecture, de goût. Mes habitudes ne me semblent pas essentielles, je suis une harpe, passe le vent entre mes codes. Et puis, vous avez aussi imité
It was 1945. The war was over, and the world was falling in love again.
Give me a number. Just give, you got a pencil or something?
No.
Give me. All right, I have a photographic memory. Just give me a number now, and I'll remember.
No.
Give me your phone number.
No.
Yes.
No.
Yes.
No.
Yes.
Liza Minnelli, Robert De Niro, New York, New York.
I can take a hint.
Can you also take a walk?
Look, you want me to leave?
Yes.
I'll leave right now.
Bye.
You expect me to leave after the way you talked to me just now?
Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York.
J'en ai imité celui de Liza Minnelli s'éloignant dans New York, New York par exemple, ou Est-ce Cabaret. On la voit de dos et sans se retourner. Elle, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle fait un geste d'adieu de dos. Elle lève la main, elle plie l'avant-bras comme je suis en train de le faire en ce moment. Elle lève la main et puis elle gratte l'air de ses doigts de dos. Elle dit au revoir comme ça. Moi j'ai fait ça très longtemps. J'ai aussi imité Betty Davis tapant sa cigarette sur le dos de la main. Et là aussi ça montre l'irrationalité et la fantaisie charmante des gestes, parce que Betty Davis le faisait dans ses films parce qu'elle fumait des cigarettes sans filtre. Elle faisait ça pour tasser son tabac et moi je le faisais avec des cigarettes qui avaient des filtres.
Vous aimez insister sur cette légèreté du geste, ce qui ne veut pas dire super superficialité du geste.
Merci de préciser ça, Olivier. Moi, je suis tout à fait contre la profondeur, parce que dans la profondeur, on se noie. C'est une fausse idée, la profondeur. Nous sommes des êtres de surface. Nous vivons à la surface de la Terre. Les hommes sont des êtres de surface. Nous parlons, nous faisons des gestes, et c'est la surface qui nous caractérise. La profondeur est une fausse idée de penser. Et d'ailleurs, tout de suite, on dit profondeur, c'est une catégorie morale. Et comme vous venez de le dire, on dit légèreté, c'est aussi une catégorie morale dépréciative et ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas l'être. Les lettres, les gestes sont une forme de légèreté qui a du sens.
Mais est-ce que c'est du fond qui est remonté à la surface ou pas du tout? C'est ça la question aussi, parce que vous n'oubliez pas qu'il y a un fond et qu'il y a une forme et qu'il y a une manifestation de la chose. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux?
Je ne crois pas d'opposition entre le fond et la forme. Je crois que ça n'existe pas. Précisément, c'est le terrorisme du fond qui nous fait croire ça. Ça laisserait entendre que le fond est la chose sérieuse et que ça remonte à la surface.
Ou au moins qu'il y a un rapport entre les deux.
Non, je ne crois pas. Je crois que c'est une opposition qui n'existe pas. On entre là dans une catégorie inventée par d'autres personnes, le fond et la forme, et donc on répète ça. Moi, je ne crois pas.
Et pourtant, vous cherchez dans les gestes, c'est-à-dire dans les choses formelles malgré tout, une signification.
Bah, qui a dit que la signification était un fond?
Ah bon, je pensais que ça pouvait non, s'apparenter au fond, non, plus non. Que le geste, finalement, la parole, l'explication, la rationalité.
Non, le sens et le sens des gestes, le sens de la parole, le sens de ce que nous sommes peut parfaitement être interprété comme une surface. Quand on va au fond, qu'est-ce qu'on trouve? On va au fond d'un panier, on trouve du moisi, on va au fond d'un poignet, on trouve des choses qu'on ne veut plus. D'ailleurs, c'est simple, on sort tout ce qui est au fond pour le mettre à la surface. Ça prouve bien que la surface est plus intéressante pour nous.
Ces Grecs étaient superficiels par profondeur. Hein.
Exactement.
C'est ça, les gestes, on peut les assimiler aux Grecs, en l'espèce de Nietzsche dans Le Gai Savoir. Et les gestes des autres, des gestes quotidiens, des gestes signifiants pour les raconter. Vous procédez à une sorte d'inventaire, des instantanés photographiques par instant, où vous captez ces gestes d'inconnus. Peut-être pourriez-vous, vous, Charles Dantzig, nous en lire un extrait, page 44 de cette succession de gestes que vous avez observés. On voit qu'en tout cas, maintenant, vous êtes aux aguets et qu'on doit contrôler notre gestuelle. Avec
page 44, où, Olivia? En haut?
Oui.
Les applaudissements sont de l'enthousiasme au bout des bras. Les ailes de l'admiration exaltée se joignent pour envoyer des remerciements. C'est aussi une circonstance sociale. Dans certains théâtres, dans certaines villes, aux premières, quelques-uns applaudissent comme on pince la bouche. Je te fais don de mon petit contentement.
Alors là, c'est sur les applaudissements.
Ça, sur
allons juste un peu plus loin plutôt. Alors, page 45, au début, on peut applaudir
On peut applaudir pour s'applaudir. 13 juillet 2015, Aix-en-Provence, Grand Théâtre, Electra. Il y avait toute la ville, pas celle d'Aix. Elle a bondi pour applaudir avant même la dernière note. Et cela n'avait pourtant pas été bien bon. Ses spectateurs s'applaudissaient eux-mêmes, heureux d'admirer une production que la totalité des médias, de Libération au Figaro, avait sommé d'admirer. L'union sacrée se fait en France par le snobisme. Ce peuple enivré de ressembler, si la droite et la gauche lui disent « bouleversant, sublime, jamais plus beau », il s'y jette comme sur les soldes. Pour cet opéra, le plus pénible de Strauss qui n'est pas le moins pénible des compositeurs. Hofmannsthal, auteur du livret, a transformé le mythe en un mélodrame bourgeois avec une folle. La mise en scène fauchique-austère donnait l'impression de sous-directeur d'hypermarché en congrès, se réveillant d'une cuite parmi des veuves corses cherchant leur verre de contact par terre. Positive hystérie de la salle applaudissant debout, trépignant, hurlant, spectateur d'opéra devenu supporter de foot, les plus grands succès en France sont ceux où le public s'applaudit de sa docilité.
Je ne vous applaudis pas. Merci beaucoup Charles Dantzig pour cet extrait de votre traité des gestes. On y revient à ce geste qui n'est pas ou qui ne doit pas être perçu à vous lire comme un cliché. Le cliché a beaucoup d'adeptes, tous les hommes qui ont horreur de réfléchir et sont heureux de se reconnaître dans la banalité. Voici les adeptes du cliché. Ce n'est pas votre cas. Invité de la Grande Table en ce vendredi, il est 13h17, c'est Charles Dantzig.
France Culture. La Grande Table, Olivia Jesbert.
Et s'il fallait s'arrêter sur une définition du geste, nous avons retenu celle du philosophe Michel Guérin. Vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec lui.
Il y a deux grands éléments dans le geste. Il y a une mine, il y a une veine exploitable. Il y a un gisement dans le geste, qui va effectivement être exploité au sens le plus managérial du terme. Et par ailleurs, il y a dans le geste des restes. Il y a un reste particulièrement fondamental qui est la gratuité, qui est le paraître, qui est le fait de vivre simplement dans l'univers. Je parlerai même ici d'une sorte de cosmesthétique, c'est-à-dire jeter des apparences vers on ne sait quel ciel au-dessus de nous. Pas forcément des apparences adressées à qui que ce soit, mais simplement le fait pour un individu, de s'auto-présenter. Le geste, c'est la présence, c'est l'être là, c'est la présence de l'individu, c'est l'absolue singularité. C'est ce qui n'est pas réductible à ce qu'on pourrait appeler des choses géométriques ou rectilignes. Le geste, c'est de la courbure, c'est de la souplesse. Et c'est ça qui fait qu'il est au commencement de tout.
Le geste est au commencement de tout, définition de Michel Guérin dans sa philosophie du geste paru en 1995.
Je suis d'accord avec lui, à part pour la souplesse, car il y a beaucoup de gestes de raideur. La gifle n'est pas un geste exactement souple, le salut fasciste n'est pas exactement un geste souple. Donc je ne pense pas qu'on puisse généraliser ou idéaliser le geste à ce point-là. À part ça, je suis parfaitement d'accord et je préciserai même en disant que le geste peut aussi être une forme de création, vraiment. Par exemple, prenez le geste des comédiens. Je cite dans mon livre le souvenir que j'ai très vivace depuis une dizaine d'années d'avoir vu Fanny Ardant au Bouffe du Nord à Paris dans une pièce de théâtre de la Garce. Elle était assise sur un tabouret, elle disait son texte et à un certain moment, elle a eu un tombé de main comme ça. Elle a laissé tomber sa main le long de son tabouret. Ça ne voulait rien dire. Mais c'était une forme de création, ça évoquait quelque chose.
Mais vous dites justement à propos du geste théâtral que plus un acteur est bon, moins il fait de gestes.
Oui, à la fin, je pense que c'est ça. Regardez Michel Bouquet, maintenant, il est là. Regardez Catherine Deneuve, elle a juste un petit lever de lèvres.
À la fin quand même, c'est pour vous préciser.
Oui, vous savez, il y a une anecdote qui est très amusante de Mankiewicz qui faisait tourner un de ses acteurs, j'ai oublié lequel, Jack Lemmon. Jack Lemmon, première prise, fait beaucoup de gestes. Mankiewicz lui dit, deuxième prise, fais-en moins. Et ainsi de suite pendant 5 ou 6 prises. Et à la fin, Jack Lemmon lui dit, mais enfin, si j'enlève encore un geste, il ne restera rien. Et Mankiewicz lui dit, c'est ça. Et probablement, le grand acteur, parce que le grand acteur, à la fin, contient nos gestes. Un grand acteur, c'est le souvenir de tout ce que nous lui avons apporté. J'ai vu il y a quelques années Jane Fonda à New York, elle jouait au théâtre. Elle est apparue sur scène, elle n'avait plus rien besoin de faire parce qu'il y avait en moi le souvenir de ce qu'avait été Jane Fonda, de ce qu'elle avait joué. Elle aurait pu rester et dire son texte de dos, elle aurait été Jane Fonda parce que ces gens sont des aimants à sentiments et à mémoire. C'est pour ça que les très grands acteurs sont de très grands acteurs, non seulement parce qu'ils savent bien jouer la comédie, mais parce qu'ils ont capté notre mémoire, ils sont avec nous et en nous. Donc on les complète en quelque sorte.
Et on parle souvent du geste artistique, celui du créateur, qui implique une intention, qui implique un élan, une création et un processus. Mais comment représenter le geste sans le figer, si on prend le cas des peintres notamment ?
Oui, vous avez raison, c'est le seul art qui représente complètement le geste du début à la fin, en réalité, c'est le cinéma, puisqu'il y a la longueur et qu'on a le début et l'accomplissement du geste. La peinture ne fait que capter des instants de geste. Et au fond, c'est une des choses les plus compliquées à raconter, un geste ou à résumer. On peut reproduire une parole, mais la description d'un geste est une chose très, 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 très longue et au fond très compliquée. Donc il faut procéder probablement par métaphore. Je crois que je dis dans mon livre que j'ai un ami, quand il est dubitatif, il a un geste de tulipe. Je pense que ça suffit à peu près. C'est-à-dire
c'est quoi un geste de tulipe ?
Un geste de tulipe, pour moi, c'est il est debout ou assis et tout d'un coup, il penche très lentement le cou sur le côté comme ça, comme vous savez, une tulipe qui est dans un vase.
Et ça veut dire quoi ?
Eh ben, ça veut dire, je pense pour lui, que justement, il doute, il n'ose pas vous dire, tu dis n'importe quoi, mais il penche la tête un peu comme ça. Ouais. Parce que chacun se crée ses gestes aussi. Olivier a employé le nom de cliché, tous les gestes ne sont pas des clichés, des répétitions. On nous apprend des gestes. Ouais. On nous apprend à les reproduire, mais on en crée parfois, comme ce garçon.
Pourquoi lever les yeux au ciel ? C'est un signe de défaite, vous voulez ?
Je pense que c'est un aveu de défaite quand on vous parle et que vous n'êtes pas d'accord et que vous faites comme ça en levant les yeux au ciel comme je viens de le faire, vous avouez à l'autre que vous le prenez ou bien pour un imbécile ou bien que vous ne savez pas lui répondre.
Vous êtes exaspéré peut-être. Vous
le faites jamais.
Levez les yeux au ciel. Ouais. Je crois que j'ai pris des tartes quand j'étais enfant et donc je suis empêché de le faire.
Vous avez fait un éloge de l'instant tout à l'heure, mais quand même, est-ce que vous avez quelque chose à dire de l'évolution des gestes à travers les siècles ?
Les gestes, c'est très poétique, parce que ça surgit et ça ressurgit. Je donne l'exemple dans mon livre d'un geste qui a été très fréquent durant tout le XVIIe et XVIIIe siècle. On le voit sur tous les tableaux qu'on appelait les tableaux de cour, c'est-à-dire les gens de pouvoir qui étaient représentés ou les gens influents. Ces gens, et vous les avez tous vus, ces tableaux sont debout avec le poing cassé sur la hanche, très fièrement.
C'est pas la même chose que vous avec votre père.
Moi j'avais les mains derrière le dos sur
les lampes. Les deux mains derrière le dos.
Et ces gens avaient, d'ailleurs, ces gens qui étaient très souvent des chefs de guerre, avaient ce poignet cassé sur la hanche dans un geste qu'aujourd'hui on qualifierait de très efféminé. Il y a 300 ans, ils n'étaient pas considérés comme tels. Donc les considérations et les jugements des gestes sont très variables. Ce geste a été reproduit dans la peinture comme geste de fierté et de domination pendant 100-150 ans. Il disparaît complètement. Et tout d'un coup, et j'en reproduis la photo dans mon livre, enfin, en 1960...
Il faut dire qu'il y a beaucoup de photos dans votre livre. Aussi.
En 1900, pas beaucoup, une trentaine.
Bon, combien ? Une trentaine.
Et tout d'un coup, au début des années 60, quelqu'un qui ne venait pas d'une famille aristocratique, quelqu'un qui n'était pas noble, quelqu'un qui ne venait pas d'une famille où on visitait les musées en permanence, refait ce geste de poing cassé sur la hanche et c'est Mick Jagger. Voilà la mémoire d'un geste. Comment se reproduit un geste ? Quelle est la... Eh bien, je pense que ça, c'est une forme de la poésie des gestes qui est en dehors du raisonnement mécaniste.
Oui, parce que vous racontez ces gestes aussi des bourreaux et des esclaves. Vous racontez comment le geste traduit des rapports de domination, mais aussi comment il existe des gestes de pouvoir. Alors, est-ce que les hommes politiques ne sont pas les plus intéressant à étudier, à observer dans toute cette gestuelle qui doit camper leur supériorité symbolique.
Si, vous avez raison, c'était très intéressant, par exemple, au moment de l'investiture de Macron à l'Élysée, il y a quelques mois. Macron fait son discours, on lui remet sa grand croix, etc. Et là, il s'avance vers ses invités, et il s'approche de Gérard Collomb, donc un homme de 40 ans de plus que son âge, et il lui tapote la joue de la main. Qui était un geste de domination insensé, qu'il a montré là, alors que c'est un homme bien élevé, que c'est tout ce qu'on veut, mais tout d'un coup, il montrait par ce geste de domination qu'il était le chef. Et les gens de pouvoir sont assez, au fond, sont eux qui ont les gestes les plus ostensiblement brutaux sans même s'en rendre compte.
Comment 40 ans de plus, vous êtes un peu dur quand même avec Gérard Collomb. Hein,
à 80, vous voulez dire non plus.
Qu'est-ce que vous pensez de la photo officielle, avec les deux mains sur le bureau, adossées au bureau, à l'américaine, a-t-on dit ? Est-ce que ça signifie quelque chose aussi d'être dans cette posture-là plutôt que devant, que derrière le bureau ?
Oui, évidemment.
Et devant la fenêtre.
Mais si vous voulez, j'ai pas tellement envie de le commenter parce que c'est fait pour être commenté. C'est
bon,
fait
d'accord.
C'est pas pour m'opposer à votre question que je dis ça, mais c'est pour éviter d'entrer dans un système de communication fait par ces gens-là pour qu'on le commente.
C'est pas du geste, c'est de la posture.
C'est de la posture, exactement.
Vous n'êtes pas un analyste de la communication par les gestes.
on pourrait l'être, mais en entrant dans ça, c'est-à-dire, on sait très bien que ces gens-là font des photos et un certain type de photos pour que nous, on les commente après et ça entretient leur gloire et leur. Parlons. je sais pas, parlant du geste du type qui est derrière. Moi, je trouve ça souvent plus intéressant. Par exemple, j'ai le souvenir que quand le pape actuel a été intronisé au balcon de Saint-Pierre, je l'ai vu comme probablement des milliards de personnes à la télévision. Je le raconte aussi dans le livre. Le pape François est arrivé au balcon, à la tribune, avant de faire son discours. Derrière lui, il y avait un jeune prêtre, très jeune, 18-19 ans, assez beau comme ça, avec son aube, avec un air extasié. Le pape était là. Et tout d'un coup, on l'a vu s'approcher du pape. Il était derrière lui et il lui époussait l'épaule. Et il recule. Il avait vu, ce courtisan, un grain de poussière sur l'épaule du pape. Il s'est retiré avec un sourire encore plus extatique. Et je me suis dit, voilà, le geste du courtisan merveilleux qui va épousseter l'épaule du chef et qui recule en disant, demain peut-être que je serai cardinal. Un geste, ça dit beaucoup de choses.
Et justement, pourquoi se méfie-t-on, Charles Dantzig, autant de ces élans spontanés? Est-ce qu'on a peur qu'ils nous trahissent? Est-ce qu'on a peur aussi du regard social qui peut être porté sur notre gestuelle? Vous écrivez, nous sommes si infectés de valeurs morales que nous croyons que ce que nous faisons spontanément est mal.
Bien sûr.
Pourquoi le geste à mauvaise presse?
Le geste à mauvaise presse parce qu'on nous a inculqué l'idée qu'il était nécessairement révélateur. Et d'ailleurs, la plupart des mères ou des parents éduquent leurs enfants en leur disant ne fais pas trop de gestes, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tous ces systèmes d'interdiction et nous-mêmes, nous passons notre temps à essayer de camoufler des gestes. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, enfin, je sais pas, j'avais 10 ou 11 ans, tout d'un coup, je savais que j'étais gay. Je me suis dit, oulala, il faut sûrement pas faire des gestes qui pourraient laisser présupposer que tu l'es.
Parce qu'on nous avait appris. Ce fameux geste efféminé que
voilà,
vous évoquez aussi
gestes,
dans votre traité.
Voilà, on est tous comme ça. On est comme ça. Or, moi, par exemple, je suis pour les gestes qu'on qualifie d'efféminés. Je trouve que c'est un geste comme un autre, qui doit être considéré comme un autre et qui n'est pas efféminé dans un sens moral et qui doit être considéré. Moi, je ne les fais pas, mais je trouve très bien que ça existe. C'est un complément au monde.
Donc, il y a une sorte de grille de valeurs morales qui continue aujourd'hui.
Tout à fait. Le moralisme s'insinue partout parce que c'est un mode supplétif de la pensée. Le moralisme, c'est pour les gens qui ne pensent pas. Les gens qui font de la morale sont des gens qui ne pensent pas. La pensée, c'est plus compliqué que la morale et la morale, c'est tellement simple. Donc, on applique des catégories sur ce qu'on appelle, de ce mot que je réprouve, beaucoup, qui est le mot de mœurs, les mœurs. Qu'est-ce que c'est les mœurs? Pourquoi? Il n'y a qu'en France qu'on emploie ce mot-là. Les mœurs, ça veut dire les manières d'être, et donc ça veut dire nos comportements sont jugés en permanence. Les mœurs. Et nous sommes le pays qui a inventé les gens qui jugent les mœurs et qui sont les moralistes.
Il y a quand même eu la métaphysique des mœurs aussi.
Oui.
Et alors on terminera par les gestes des gros cons, et ça ne vous est pas adressé bien sûr. Mal se tenir dans certaines catégories de la société, c'est comme mal parler, ça pose. Les gros cons qui s'asseyent en étendant les bras sur le dossier du canapé revendiquent un empire, il y a des gestes bruyants. Merci d'être venu faire un peu de bruit dans notre studio, Charles Dantzig. On vous retrouve donc dans ce même studio dimanche à 15h pour Personnages en personne. Votre traité des gestes apparu chez Grasset. Un grand merci à vous, Antoine, merci de nous avoir accompagnés toute cette semaine. À la préparation, Claire Maillot, Clémence Marie, Henri Leblanc, Chloé Leblanc et aussi nos stagiaires en or, qu'on remercie bien, Bertie Bourdon et Maxime Morin. À la réalisation Père et Legras avec Clément Daté. Je vous retrouve lundi pour une rencontre exceptionnelle avec le peintre américain David Hockney, puis Michel Vinoc dans la deuxième partie de l'émission pour Décadence, fin de siècle, son nouvel essai historique. Très bel après-midi à tous sur France Culture et bon week-end.